14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
C'est un monstre. Elle est pire qu'Epstein. Elle a fait des choses bien plus graves que lui. Elle était vicieuse et diabolique. C'est elle qui tenait les rênes. Elle avait son argent et il avait ses contacts. Mais Ghislaine était bien plus intelligente qu'Epstein.
Bonjour. Elle est aujourd'hui la femme qui vaut 1 million de secrets et qui, en quelques mots, pourrait changer le destin de personnalités d'hommes puissants qui sont si longtemps restés dans son sillage. Parlera ? Parlera pas. Le procès de Ghislaine Maxwell, 59 ans, doit s'ouvrir officiellement le 29 novembre 2021 devant un tribunal de New York. Procès qui donne le vertige avant même qu'il n'ait débuté. Ghislaine Maxwell a été pendant des années la confidente, l'éminence grise et même la rabatteuse, selon les conclusions du FBI, du milliardaire pédophile Jeffrey Epstein. Elle est accusée d'avoir organisé et supervisé le recrutement de 13 jeunes filles entièrement dévouée au service de son mentor et de ses amis célèbres. Epstein s'est suicidé dans sa prison au mois d'août 2019. C'est donc Ghislaine Maxwell, courtisée par les plus grands et qui croupit désormais dans une cellule de 3 mètres carrés, qui va devoir rendre des comptes et s'exprimer à la place d'un Jeffrey Epstein dont le fantôme sera omniprésent au tribunal. Que pourrait dire cette accusée à bout de force? Va-t-elle faire trembler ses anciens amis? Question posée aujourd'hui à nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, le dossier Ghislaine Maxwell, ex-confidente du milliardaire Jeffrey Epstein. Elle est accusée de trafic sexuel et s'apprête à comparaître devant un tribunal après avoir été arrêtée à l'été 2020 à l'issue d'un mois de traque. Ce jeudi 2 juillet 2020, aux alentours de 8h du matin, un convoi de 15 voitures de police et de véhicules banalisés traverse la petite localité de Bradford, 1650 âmes, dans la campagne reculée du New Hampshire, tout au nord de Boston. Direction, une vaste propriété d'une 60aine d'hectares baptisée Tucked Away, achetée récemment par une mystérieuse société anonyme. C'est ici que se cache Ghislaine Maxwell, 58 ans, soupçonnée d'avoir participé à des crimes sexuels et recherchée par une procureure de New York. Cette femme d'influence qui évolue depuis des années dans les cercles les plus haut placés de la politique, de la finance, a disparu depuis le printemps 2019. Introuvable malgré les recherches des avocats des plaignantes, aucune adresse connue, aucune boîte postale où lui adresser des assignations de justice. Le FBI va alors lancer une discrète mais gigantesque traque pour retrouver Ghislaine Maxwell. Pas moins de 4,9 millions de dollars dépensés en utilisation d'avions de reconnaissance, de satellites pour pouvoir lui mettre la main dessus. C'est chose faite donc ce 2 juillet. À 8h30, une voiture bélier enfonce le portail métallique de la propriété de Bradford. 24 agents du FBI foncent vers la maison. Une employée dit qu'il n'y a personne, mais Ghislaine Maxwell apparaît sur le seuil, vêtue d'un t-shirt et d'un pantalon de jogging. Elle est menottée, placée dans un véhicule. Elle ne prononce aucun mot. Ghislaine Maxwell est placée quelques heures en détention dans la région de Bradford, le temps de lui signifier les 4 charges retenues contre elle par la procureure du district de l'État de New York, Audrey Strauss. Entre autres, corruption et exploitation de mineurs pour obtenir des relations sexuelles illégales, encouragement à la débauche. Il est précisé que Ghislaine Maxwell a aidé Jeffrey Epstein à avoir des relations sexuelles avec des mineurs, en sachant pertinemment qu'il préférait les filles très jeunes. Maxwell est présentée dans l'acte d'accusation comme une rabatteuse par 3 témoins anonymes qui apparaissent sous les intitulés victime numéro 1, victime numéro 2 et victime numéro 3. La numéro 1 explique ainsi qu'elle a été recrutée par Ghislaine Maxwell en 1994, alors qu'elle n'avait seulement 14 ans. Celle-ci l'avait emmenée au cinéma, puis avait fait du shopping avec elle. Peu à peu, Ghislaine Maxwell était devenue proche, la questionnant sur son école, ses amis, sa famille et ce qu'elle aime dans la vie. La victime numéro 1 raconte que Maxwell a commencé un jour à se déshabiller devant elle, puis l'a conduite auprès de Jeffrey Epstein pour des séances de massage sexuel à 3. Le 6 juillet 2020, Ghislaine Maxwell est incarcérée au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, au sud de New York, une prison réservée aux détenus en attente de procès. L'ancienne compagne, devenue la plus proche collaboratrice de Jeffrey Epstein, fait savoir qu'elle plaidera non coupable. Elle est admise dans une cellule de 3 mètres carrés, où elle pense alors pouvoir sortir rapidement. Mais elle se trompe. La caution de 21 millions de dollars qu'elle se dit prête à payer lui est refusée à 4 reprises. Maxwell, habituée depuis l'enfance à un grand train de vie, à côtoyer le luxe, se retrouve confrontée à l'une des plus glauques prisons américaines. Au mois de novembre 2021, après 16 mois passés derrière les barreaux, elle va révéler au journal Daily Mail ses conditions de détention. « Je suis faible, je suis fragile, je n'ai pas d'énergie, je suis fatigué, je n'ai même pas de chaussures à ma taille, on me donne de la nourriture avariée. Une pomme avait des vers à l'intérieur, je ne suis pas autorisé à faire de l'exercice, les gardiens me regardent quand je prends une douche. » Et voici donc pour la descente aux enfers de Ghislaine Maxwell. Elle était persuadée que ce genre d'événement n'arriverait jamais, de la haute société à une cellule miteuse de Brooklyn. On va voir dans le chapitre suivant comment cette femme importante, avec un nom célèbre, a pu en arriver là, en fréquentant notamment Jeffrey Epstein. Pour l'instant, on va rester sur cette arrestation et on retrouve notre premier invité de l'heure du crime, Olivier O'Mahony. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne depuis les États-Unis, d'être en ligne et d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste correspondant aux USA de Paris Match et vous sortez dès demain d'ailleurs, un grand papier sur Ghislaine Maxwell dans l'hebdomadaire Paris Match. Un papier intitulé « Ghislaine Maxwell, quand la diabolique était à l'odeur de sainteté ». Alors une diabolique à l'odeur de sainteté, le titre est tout à fait trouvé. À cette époque, on remonte à ce mois de juillet 2020, cette diabolique, comme vous l'appelez, elle est devenue la femme la plus recherchée des États-Unis.
Oui, tout à fait. Donc elle s'isolait dans une maison, comme vous l'avez rappelé, dans le New Hampshire, au milieu de nulle part. J'y suis allé d'ailleurs, et c'est vrai qu'elle était très recluse. Et en fait, elle se défend dans sa prison en se plaignant essentiellement de ses conditions carcérales. Donc elle est apparue à plusieurs reprises à la barre au tribunal fédéral de Manhattan. Et ce que je raconte dans l'article, c'est qu'effectivement, le 15 novembre dernier, qui était une audience importante, car c'était en fait le moment où commençait la sélection du jury, ouais, qui va la juger, coupable ou innocente. Ce jour-là, c'est la première fois qu'on l'a vue en tenue civile et elle était extrêmement détendue. Donc elle souriait, elle riait avec ses avocats et ça a créé une sorte de stupéfaction dans la salle d'audience.
Un petit peu de malaise sûrement parce que effectivement ces conditions de détention, on va en reparler d'ailleurs dans quelques minutes, paraissent assez difficiles. En quelques mots, Olivier O'Mahony, à quoi elle ressemble, Ghislaine Maxwell? Vous l'avez vue là.
Oui, ben elle ressemble effectivement elle n'a pas énormément changé. Elle a certainement maigri par rapport aux photos de l'époque, mais elle ressemble à la Ghislaine Maxwell
qu'on connaît sur les photos, etc.
Exactement, hein, oui.
C'est ça. Il n'y a pas de modification particulière. Encore un mot, Olivier O'Mahony. Ghislaine Maxwell, c'est pas n'importe qui. Hein, elle porte un nom, je l'ai dit, qui est hautement célèbre et même sulfureux.
C'est ça. Son père, Robert Maxwell, était donc le fondateur d'un empire de presse. Elle était extrêmement connectée avec tout le Gotha de Londres et aussi américain. Et en fait, elle a évidemment très mal vécu la mort de son père dans des conditions troubles. Hein. Mmh. Et donc, elle a été obligée de s'exiler à New York, où là, elle était fauchée, comme elle l'a dit, comme elle le disait à l'époque. Et elle a rebondi grâce à Jeffrey Epstein.
Et Jeffrey Epstein, effectivement, qui l'a pris sous son aile et qui va en faire un petit peu son éminence grise. Elle ne va cesser d'être dans son sillage et dans son ombre. On va rester pour l'instant à cette arrestation et à ce placement en détention d'une femme qui, jusqu'à présent, vivait exclusivement dans le luxe et qui se retrouve, donc, je l'ai dit, dans cette prison assez glauque de New York. Et on a en ligne également notre deuxième invité, maître François Zimeret. Bonjour maître.
Bonjour monsieur Richard.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous faites partie, avec votre consoeur Jessica Finel, des avocats de la famille Maxwell. Alors je le précise, c'est pas sur le fond du dossier, mais sur les conditions de détention de Ghislaine Maxwell. Et vous nous parlerez d'ailleurs un peu plus tard de l'action que vous avez intentée sur le sujet auprès de l'ONU. Vous avez étudié de près ce dossier de détention de Ghislaine Maxwell. À quoi elle ressemble justement cette détention ?
Elle est dans un régime de détention particulièrement dur que même certains magistrats ont considéré comme très déshumanisante. Elle est à l'isolement, c'est-à-dire que non seulement elle est incarcérée, mais elle n'a pas de contact avec les co-détenus, très très peu de contact avec l'extérieur, y compris sa défense. Elle est surveillée jour et nuit, tous les quarts d'heure, vous avez une torche qui lui agresse les yeux et elle ne peut pas dormir, donc sa santé s'en ressent évidemment. Elle a 7 fouilles corporelles par jour, une nourriture qui est à la limite de la décence. Bref, elle est dans des conditions très dures qui ont d'ailleurs été dénoncées par des ONG, par des magistrats qui se sont déjà plaints de cette prison. Mais au-delà du fait que ce sont des conditions difficiles, il faut s'interroger sur le fait qu'elle soit détenue alors qu'elle n'a pas été jugée. Moi, ce qui me frappe, c'est que on a quelqu'un qui devrait être présumé innocent et qui est présenté comme coupable, qui est perçu comme coupable et qui est traité comme coupable avant même qu'on ait entendu le son de sa voix et sa version.
Ghislaine Maxwell n'a pas d'autre choix que d'attendre le procès qu'on lui intente pour toute une série de crimes sexuels commis par celui qu'elle a longtemps accompagné, Jeffrey Epstein, crime auquel elle aurait participé. En ce mois de novembre 1992, Ghislaine Maxwell, alors âgée de 31 ans, est à bord du Concorde entre Londres et New York en compagnie d'un financier que le grand public ne connaît pas, Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell, en revanche, porte un nom célèbre et qui sent le soufre un an auparavant. Elle a perdu son père, le baron des médias anglo-saxons Robert Maxwell, mystérieusement tombé à l'eau au large des îles Canaries. Accident ou meurtre, on ne saura jamais. Maxwell laisse derrière lui un retentissant scandale financier. Il puisait dans les fonds de pension pour bâtir sa fortune. Il sera, après sa mort, surnommé l'escroc du siècle. Les Maxwell sont ruinés, mais Ghislaine, la fille préférée, est bien décidée à renouer avec la fortune. Elle séduit l'américain Jeffrey Epstein, homme parti de rien, qui gagne désormais beaucoup d'argent. Ghislaine est son amante, rêvant un mariage qui n'arrivera pas et surtout une conseillère des plus avisées. C'est elle, grâce à ses relations et son carnet d'adresses, qui lui donne accès à la haute société et au cercle de pouvoir. Le couple est l'un des plus en vue du moment, une vie de milliardaire entre un immeuble de New York, l'immense Ranch Zorro au Nouveau-Mexique, un tout aussi gigantesque appartement avenue Foch à Paris, et puis Little St. James, un caillou des îles Vierges qui sera baptisé l'île aux pédophiles. Au fil des années, Ghislaine Maxwell semble prête à tout pour satisfaire cet homme qu'elle aime, admire et redoute. Elle n'a aucun tabou sur le plan sexuel. Elle est à son service pour satisfaire son appétit de très jeune fille. Selon des témoins, Ghislaine Maxwell va ainsi rechercher partout, près des écoles, dans des clubs et des salons de massage, de jeunes femmes qui pourraient être au goût de Jeffrey. Elle les invite ensuite à prendre un verre dans l'une des propriétés du financier. Une plaignante indique avoir été ainsi amenée jusqu'au ranch du Nouveau-Mexique. Une autre raconte avoir été approchée par Lady Ghislaine en 1994 à Londres et avoir été contrainte à des relations sexuelles avec elle et le milliardaire. Ghislaine Maxwell aurait ainsi mis en confiance des dizaines de mineurs, la plus célèbre d'entre elles, Virginia Roberts, qui deviendra Virginia Giuffre, affirme avoir été recrutée par Maxwell à l'âge de 17 ans comme masseuse. Dans une plainte, elle décrit Ghislaine Maxwell comme la co-responsable d'un vaste réseau de trafic sexuel. Malgré la multiplication des témoignages, Ghislaine Maxwell ne va cesser de répéter qu'elle n'était pas au courant des frasques sexuelles imputées à Jeffrey Epstein. En 2008, alors que celui-ci a failli tomber une première fois en Floride pour incitation à la prostitution de dizaines de mineurs, elle prend ses distances. Epstein évite le procès au terme d'un accord inespéré avec le juge, il s'en sort bien. Il est condamné pour la forme à 13 mois de détention, une peine aménageable qui lui permet d'aller et venir à sa guise. Selon ses défenseurs, Maxwell aurait seulement travaillé pour Epstein entre 1999 et 2006, des dates qui ne cadrent toutefois pas avec les déclarations de plusieurs victimes. D'après elle, Ghislaine Maxwell n'aurait jamais cessé d'accompagner les activités perverses du financier. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, Olivier O'Mahony, journaliste pour Paris Match, correspondant aux États-Unis pour ce magazine. Et Olivier, vous sortez demain, je le précise une nouvelle fois, un grand papier sur le cas Ghislaine Maxwell. C'est plus qu'un couple, Maxwell et Epstein, c'est vraiment, on peut parler d'une attraction fatale entre les deux.
Oui, alors c'est effectivement ce que nous raconte Christina Oxenberg, cette amie de Ghislaine Maxwell qu'il a connue à cette époque-là, mm-hmm. et qu'il a vu qui les a vus ensemble. Alors selon elle, c'était une relation beaucoup plus professionnelle que sentimentale, mais clairement, selon elle, toujours Ghislaine travaillait au service de Jeffrey, mm-hmm. Avec un espèce de pacte faustien, donc Jeffrey la finançait, parce qu'il faut savoir qu'effectivement à son arrivée aux États-Unis, Ghislaine n'avait pas un sou, elle vivait dans un petit studio dans l'Upper East Side de Manhattan, et tout d'un coup l'année d'après, Christina la retrouve dans un grand appartement toujours dans le même quartier, à côté de du grand hôtel particulier de Jeffrey Epstein, et donc tous les deux c'était effectivement un couple un peu maudit qui était très bling bling, qui évoquait le jet privé, du name dropping, des gens connus, etc.
Alors Olivier, ça va effectivement vite, cette ascension de Ghislaine Maxwell. Alors, enfin, elle se refait, si je puis dire, une fortune après la mort de son père qui était milliardaire. Vous dites, il l'a financée. Elle est prête à tout pour le satisfaire. Et il a un insatiable appétit sexuel, Jeffrey Epstein.
Oui, alors effectivement, elle est prête à tout. Elle raconte justement à son amie Christina Oxenberg que il a besoin d'avoir trois orgasmes, comme elle dit, par jour, et que ça a été prouvé par les plus grands docteurs qui lui ont fait ce diagnostic. Donc c'est ce qu'elle dit à l'époque autour d'elle à cette amie Christina et à d'autres. Ça a été effectivement raconté également par certaines des victimes présumées du pédophile Jeffrey Epstein. Donc effectivement, et elle, d'après les accusés, était là pour justement lui procurer tout ce dont il avait besoin.
Et les victimes le disent, hein, elle est omniprésente. Voilà. C'est ça, c'est très important. Elle est omniprésente, Ghislaine Maxwell.
Les victimes disent que c'était la maîtresse de maison. C'est-à-dire que c'est elle qui organisait tout. Et elle était au petit soin pour Jeffrey, et elle essayait aussi de le séduire, même en suivant en étant toujours bien apprêtée, toujours mince, etc. Elle était vraiment à son service.
À son service. Maître Zimré, on entend ce que dit Olivier O'Mahony, cette espèce de soumission de Ghislaine Maxwell à son mentor, à son maître presque, et puis ses victimes qui accusent en cascade. Il y a beaucoup d'accusations contre Ghislaine Maxwell.
Les accusations contre elle sont graves et elle doit pouvoir y répondre et le faire sereinement. Mais quand vous avez 50 livres contre vous, des dizaines de podcasts et de documentaires, des milliers d'articles et de presse qui vous dépeignent comme coupable et un procureur qui vous présente comme coupable alors même que vous n'avez pas été jugé, vous vous présentez devant la justice avec le poids d'une accusation lourde et sérieuse contre vous. Donc, en fait, elle n'est absolument pas traitée comme une innocente, comme une présumée innocente, et elle n'est pas perçue comme une présumée innocente. C'est pour ça qu'on s'interroge sur la possibilité même d'un procès équitable. Vous savez, le principe de la justice, c'est quand même la balance. peser le pour, le contre, et ça suppose un procès juste et équitable. Mais là, dans un cas, quand quelqu'un a été présenté à des centaines de millions de spectateurs comme coupable et même archi-coupable, je pose la question, comment peut-on le juger dans le respect de la présomption d'innocence ?
Alors, c'est effectivement une vraie question. C'est vrai, Olivier O'Mahony, les témoins à décharge aujourd'hui pour Ghislaine Maxwell, ils sont très peu nombreux. Il y a quasiment qu'un mur d'accusation contre elle.
Il y a un mur d'accusations, mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est que ce sont des accusations qui sont anciennes. Et donc, ce que va faire Ghislaine Maxwell au tribunal, c'est qu'elle va essayer de démonter la véracité, de décrédibiliser, en fait, les accusatrices. Donc, elle a déjà fait appel à une psychologue qui s'appelle Elisabeth Loftus, qui interviendra comme témoin pour sa défense, et qui dira que à l'époque la mémoire qu'on garde d'événements aussi anciens peut être influencée par les faits actuels. Donc ça va être la ligne de défense de Ghislaine Maxwell, décrédibiliser.
Oui, c'est ça, c'est qu'on va s'attaquer aux victimes, c'est la seule voie possible pour elle pour essayer de s'en sortir.
Exactement. C'est ça.
Malgré son éloignement d'Epstein, l'avocat des victimes ne va cesser de la considérer comme l'élément central de ce réseau sexuel chez les riches. Il va tout faire alors pour la retrouver et la rattraper. En ce mois de juillet 2010, maître Bradley Edwards, qui défend plusieurs plaignantes d'Epstein, espère bien pouvoir le faire rejuger, en compagnie cette fois de Ghislaine Maxwell. L'avocat répète que Maxwell est le pion le plus important sur l'échiquier Epstein. La seule femme qui, malgré les apparences, dit-il, traitait d'égal à égal avec cet homme. Maître Edwards souhaite obtenir une déposition de Ghislaine Maxwell, mais celle-ci se dérobe. Elle prétexte la maladie de sa mère pour partir en Angleterre. Un mensonge, elle apparaît au même moment avec les Clinton, invités à l'anniversaire de leur fille Chelsea. Il va falloir attendre 6 ans et l'insistance de Virginia Giuffre, la plus connue des victimes, pour que Maxwell témoigne devant des juges. Chose faite, les 22 avril et 22 juillet 2016, elle proteste de son innocence. À propos des séances de massage pratiquées par des adolescentes, elle répond « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Elle ne se souvient pas d'avoir vu des sextoys chez Epstein, elle n'a jamais pratiqué de massage, elle n'était pas au courant des activités sexuelles de Jeffrey, etc., etc. Autant de déclarations qui seront finalement considérées comme des parjures. À partir de cette déposition, la traque s'amplifie. Outre le recrutement de jeunes filles, Ghislaine Maxwell est soupçonnée d'avoir mis en rapport une cohorte de personnalités avec Jeffrey Epstein. Des hommes connus, profitant de séjours dans ses diverses résidences, se déplaçant dans ses avions privés en Europe et sur l'île de Little St. James. L'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, a fait partie des invités du financier. Maxwell avait aussi ses entrées chez le prince Andrew d'Angleterre, accusé de rapports sexuels forcés par Virginia Giuffre à la fin du printemps 2019, le 6 juin. Et alors que la justice américaine vient tout juste de rouvrir le dossier Epstein, Ghislaine Maxwell rencontre le prince Andrew à Buckingham Palace. Le prince, sans convaincre, évoquera une rencontre de hasard. Ghislaine Maxwell participe alors à un rallye automobile avec d'autres célébrités, dont Paris Hilton, pour une œuvre de charité. On la voit 4 jours plus tard, 10 juin, en robe rouge à une soirée du Yacht Club de Monaco. Puis elle disparaît. Un mois plus tard, Epstein est arrêté. Une enquête donc qui n'a cessé de monter en puissance en visant Epstein, mais aussi, et c'est nouveau, Olivier O'Mahony, journaliste et correspondant aux États-Unis pour Paris Match, c'est nouveau, une enquête qui désormais se tourne vers Ghislaine Maxwell.
Et oui, parce que Jeffrey Epstein est mort et donc...
Pas encore à ce moment-là, Olivier. Il va mourir, mais dès que l'enquête s'ouvre sur Epstein, on met la pression sur elle.
On met la pression, c'est effectivement les victimes, Virginia Giuffre qui l'attaque en justice, puis ensuite Ghislaine Maxwell répond en attaquant en justice. Et effectivement, à l'époque, on voit des... Donc Ghislaine est en effet interrogé par la justice. Et ce qui frappe dans les documents judiciaires de l'époque, c'est l'arrogance de Ghislaine Maxwell, ouais, qui répond à peine aux questions des enquêteurs, qui sont pourtant des questions légitimes, mais qui, grosso modo, Ghislaine Maxwell leur répond que leurs questions sont stupides et déplacées à côté de la plaque. Et je dirais que c'est un petit peu ce qui risque de lui coûter très cher, cette arrogance à la barre, en tout cas.
On va lui reprocher effectivement ses propos, on va même dire qu'elle a menti, que c'est un parjure. Voilà. Et alors il y a ses liens avec des personnalités, elle a un énorme carnet d'adresses, et on cite toujours Bill Clinton, évidemment le prince Andrew. Elle fait le trait d'union entre Epstein et notamment Clinton, qui apparemment a beaucoup voyagé avec Epstein.
Oui, alors évidemment, Clinton dit qu'il a voyagé que 4 fois avec Epstein et que donc il minimise énormément ses relations avec lui. Mm. Je crois que le carnet d'adresse de Ghislaine Maxwell est surtout centré sur l'Angleterre quand même. Donc en effet, le prince Andrew, dont elle était proche, c'est clairement elle qui a fait le lien et avec Epstein. Epstein ne connaissait personne en fait. Mm. En la rencontrant, et il aurait certainement pas pu organiser les dîners somptueux dans son hôtel particulier de New York s'il n'y avait pas eu le carnet d'adresse de Ghislaine derrière, ça c'est certain.
Maître Zimmeret, vous êtes avocat français et l'un des avocats de la famille Maxwell. Est-ce qu'elle paie pour Epstein, Ghislaine Maxwell?
Jusqu'à la mort de Jeffrey Epstein, elle n'était pas poursuivie par la justice américaine. Donc on a vraiment l'impression qu'elle paye pour deux, que c'est un coupable de substitution. La justice n'a pas été capable d'empêcher la mort de Epstein, qu'il s'agisse d'un suicide ou d'un meurtre, de le protéger contre cela. Et dès lors, aujourd'hui, on a le sentiment d'une concentration de la haine sur elle qui est extrêmement forte.
L'arrestation de Jeffrey Epstein va mettre clairement en danger Ghislaine Maxwell, la femme qui partageait la plupart de ses secrets. Elle pensait être à l'abri, mais la justice américaine va tout mettre en œuvre pour la faire tomber. Le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein, de retour d'un séjour à Paris, est arrêté alors qu'il descend de son jet privé sur le petit aéroport de Teterboro. Il est incarcéré à New York. Les victimes ont réussi à refaire passer les menottes à un homme qui, selon elles, mérite de passer devant un tribunal. Le FBI n'en oublie pas pour autant Ghislaine Maxwell. Son nom revient en boucle dans le bureau du procureur de New York et dans les cabinets d'avocats. L'actrice de Hollywood Hélène Barkin n'hésite pas à la dénoncer dans un tweet ravageur. Cette femme est la mère maquerelle d'Epstein. Elle s'occupe des avions qui font la navette avec son île. Je le sais parce qu'elle me l'a dit. Cette femme ne peut pas rester libre, écrit-elle. Le 9 août, une cour fédérale rend public un rapport de 2000 pages sur les accusations dirigées contre Maxwell. Il est ainsi indiqué qu'elle recrutait des filles pour satisfaire l'appétit sexuel d'Epstein. Un homme qui avait besoin d'avoir 3 orgasmes par jour, c'était pour lui biologique, comme le besoin de manger, déclare une victime dans ses documents. Le lendemain, 10 août, Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule. L'enquête conclut à un suicide. Jeffrey Epstein ne pourra plus livrer aucun de ses secrets. Ghislaine Maxwell se retrouve seule à affronter la tempête qui se prépare. Epstein était présenté comme un monstre, mais Epstein est maintenant mort. Du coup, Ghislaine est le monstre, d'autant plus un monstre qu'elle est la fille de Robert Maxwell, dit pour sa défense son frère, Ian Maxwell. Après le décès du financier, des victimes portent plainte directement contre Ghislaine Maxwell. Jennifer Araoz avait 14 ans quand Epstein l'a violée. Elle affirme que Maxwell était partie prenante du système. Elle était là pour s'assurer que Epstein ait bien 3 filles par jour pour satisfaire son plaisir. Pendant près d'un an, Ghislaine Maxwell va tenter de se faire oublier, de se fondre dans la nature. On la croit en France, en Californie, en Israël. Elle est interpellée le 2 juillet 2020. Elle plaide non coupable au procès qui s'annonce, indiquant qu'elle n'avait jamais pris la fuite car elle n'avait rien à cacher. Olivier O'Mahony, on vous retrouve au téléphone de l'heure du crime et vous êtes en direct depuis les États-Unis, journaliste à Paris Match. 4 victimes, finalement, vont être présentes à ce procès, vont témoigner contre Ghislaine Maxwell. Mais il n'y a pas dans ces victimes Virginie Giuffré, qui est la plus connue des victimes. Et c'est elle qui a porté le combat contre Epstein et contre Maxwell. Pourquoi elle n'est pas là?
Alors écoutez, Je ne sais pas, je vous le dis franchement. Non, en fait, sur les quatre victimes que vous évoquez, effectivement, il y en aura quatre, mais il y en a une seule, ce sont des victimes anonymes.
C'est ça.
Donc,
ouais.
Voilà, donc il y en a une seule qui a dit qui elle était, elle s'appelle Annie Farmer. Mm-hmm. Donc Annie Farmer, qui est une jeune fille qui avait 16 ans au moment des faits, et qui était une excellente élève, c'est d'ailleurs quelqu'un qui a une carrière de psychologue, docteur, très brillante aujourd'hui, et qui va témoigner à la barre. Donc au moment des faits, elle pensait avoir été invitée par Ghislaine et Jeffrey Epstein dans son ranch au Nouveau-Mexico, pensant qu'elle allait assister à un stage pour étudiants surdoués. Et quand elle arrive sur place, elle découvre en réalité qu'il n'y a que Jeffrey, Ghislaine et elle, et commence une succession de moments désagréables qui se transforment en agressions sexuelles, dont elle sort traumatisée. Et cette jeune fille, Annie Farmer, qui va essayer de dénoncer, elle va voir la police très très tôt. C'est en fait quelqu'un de très important dans la procédure, parce que c'est la première jeune fille.
Ouais, c'est elle qui met le feu aux poudres, hein, finalement.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Mais on la croit pas, on la suit pas à ce moment-là. Au début, c'est compliqué. Hein,
exactement. Avec sa sœur Maria, qui a fait les présentations avec Jeffrey Epstein et qui s'en mord les doigts aujourd'hui, elle va aller voir, elle va d'abord parler à une journaliste américaine qui travaille à Vanity Fair, mais non corroborée. Son récit ne va pas être publié. Puis elle va être approchée par la police de Floride dans le cadre de ce procès dont Epstein se sort miraculeusement. Et finalement, il faut en fait attendre 2018, la fin 2018,
pour que ces accusations soient prises au sérieux. Encore un mot, Olivier O'Mahony. Ghislaine Maxwell avait dit très brièvement au début de l'affaire, quand son nom commençait vraiment à circuler, que des images des rendez-vous de Epstein existaient, que tout était filmé en quelque sorte. Oui. On n'a jamais vu ça, ces images privées. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces images?
Alors écoutez, c'est une excellente question. Et la vérité, c'est qu'en réalité, je pense que si ces images existent, les personnes qui ont été filmées peuvent aujourd'hui dormir tranquilles. Car en fait, Ghislaine Maxwell plaide non coupable. Ce qui veut dire qu'en fait, il va pas y avoir de négociation avec les procureurs, elle cherchant, balançant des noms pour diminuer sa peine. Donc en fait, ces images effectivement n'ont pas été diffusées. On ne sait pas si elles existent. Certaines victimes disent qu'elles existent, mais on les a pas vues. Et par rapport à la question de savoir si Ghislaine allait balancer des noms que vous évoquiez en début d'émission, je pense que là, effectivement, la curiosité légitime
va être déçue. Il n'y aura pas de nom balancé, puisque effectivement elle plaide non coupable, mais l'affaire ne fait que commencer. Et les procès aux États-Unis ont parfois tendance à se retourner de manière spectaculaire. Ghislaine Maxwell va prochainement affronter donc les jurés. Elle n'est pas tenue de s'exprimer. Ses défenseurs vont évidemment viser les victimes et soulever l'absence de preuves. Le lundi 29 novembre 2021, Ghislaine Maxwell, 59 ans, est attendue devant le tribunal criminel de Manhattan. Ces derniers mois, cette femme, qualifiée de mère maquerelle par les victimes d'Epstein, n'a cessé de dénoncer le manque de temps pour préparer avec ses avocats les audiences à venir qui devraient s'étendre sur 6 semaines. « J'ai bien peur qu'il soit impossible pour moi d'avoir un procès équitable. J'ai très peur que l'image négative colportée sur moi par les médias finisse par influencer les jurés », confiait-elle à un ami au début de sa détention. Le 22 novembre, ses frères et sœurs ont saisi l'ONU pour dénoncer de graves violations des droits de la défense de la prisonnière numéro 028-79-509. Il y a une ligne étroite qui sépare la justice de la vengeance. Nous ne nous battons pas contre les plaignantes, mais contre l'arbitraire, précisent les avocats français de la famille Maxwell, François Imray et Jessica Finel. Ghislaine Maxwell plaide non coupable. Elle n'est pas tenue de prendre la parole lors des audiences, sauf si elle le désire expressément. Ses avocats américains font savoir qu'elle est innocente et qu'elle ne reconnaît aucun des faits qui lui sont imputés. Elle n'a rien à dire et ne dira rien. Une attitude à haut risque qui pourrait l'exposer à une peine de 35 ans de prison, jusqu'à 80 ans de détention si elle est reconnue coupable de toutes les charges citées dans cette procédure, qui n'aura visé pendant longtemps que le seul Jeffrey Epstein. Et donc, juste à quelques jours de ce procès, on retrouve dans cette heure du crime Maître Zimré, l'un des avocats de la famille Maxwell, et qui se préoccupe des conditions de détention de Ghislaine Maxwell. Maître Zimré, vous avez saisi l'ONU ?
Nous avons saisi ce groupe de travail sur la détention arbitraire, qui est le gardien à l'ONU de ce que l'on appelle les règles Mandela pour le traitement digne des prisonniers partout dans le monde. Nous avons saisi des conditions dans lesquelles se déroule la procédure contre Ghislaine Maxwell.
Et c'est une procédure assez rare, hein, quand même.
Oui, c'est une procédure assez exceptionnelle. Les experts des Nations Unies, qui sont de très hauts magistrats, rendent moins d'une centaine d'avis par an et pour le monde entier.
Est-ce que ça peut avoir une conséquence sur le procès, cette action ?
Le fait que nous ayons saisi cette haute autorité maintenant, je l'espère, va attirer l'attention des autorités de poursuite américaines sur la nécessité enfin de respecter sa présomption d'innocence et de faire en sorte que sa voix soit entendue. Personne n'a entendu le son de sa voix. Dans tous les documentaires, dans toutes les séries que vous avez pu voir, il n'y a pas sa propre version. Eh bien, il est temps maintenant qu'elle puisse répondre des accusations graves qui sont formulées contre elle et le faire sereinement face à des jurés qui l'écoutent dépourvus de tout préjugé.
Donc vous nous le confirmez, maître, elle va parler à son procès ?
À son procès, elle parlera certainement, mais ce qui est important, c'est qu'elle puisse être écoutée par des oreilles dépourvues de tout préjugé. Et c'est ça le sujet.
Alors Olivier O'Mahony, on entend maître Zimré, elle va parler, mais c'est pas sûr qu'elle fasse des révélations, c'est ça ?
Pas sûr qu'elle fasse des révélations, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'elle va être condamnée à coup sûr. Moi, je pense que le problème aux États-Unis, si vous savez, c'est de convaincre les
jurés.
Le jury. Et oui. Donc, ils seront 12. Et il faut l'unanimité. S'il y a un doute, eh bien, elle ne sera pas convaincue. Elle sortira du tribunal libre.
Alors, ça va être le sacré boulot des avocats. Hein.
Ça va être le boulot des avocats. Là où Harvey Weinstein a échoué, les avocats, Ghislaine Maxwell peut très bien réussir, simplement en décrédibilisant, effectivement, en sémant le doute. Le problème de Ghislaine Maxwell, le problème, ou plutôt son avantage, c'est qu'en fait, elle a été très très discrète, ce qui veut dire qu'on ne sait pas grand-chose, en fait, sur sa vie. Et il y a beaucoup de zones d'ombre qui rendent finalement le travail des procureurs pas évident pour convaincre les jurés sans qu'ils aient le moindre doute sur sa culpabilité ou le rôle qu'elle a joué dans les crimes dont on l'accuse.
Mais encore une question, Olivier O'Mahony. À supposer qu'elle soit condamnée, pourquoi pas, on peut l'imaginer comme ça, qu'elle soit condamnée, le vent risque de tourner après, parce que si elle n'a rien dit à ce procès, à supposer qu'elle prenne au moins 30 ans de prison, peut-être elle changera d'avis et peut-être il y aura d'autres révélations qui vont venir, puis les avocats ne vont pas la lâcher comme ça.
Écoutez, je pense que elle considère qu'elle n'a rien à se reprocher et que donc elle considère que les attaques dont elle fait l'objet sont simplement issues de jeunes filles qui étaient là pour gagner de l'argent et qui aujourd'hui sont relayées par des procureurs avides de publicité. Donc pour l'instant, sa défense, c'est vraiment ça. Hein.
C'est le silence, sa défense, pour l'instant. Merci beaucoup Olivier O'Mahony et maître François Zimré d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.